Bienvenue dans la Terre à boire. Pour le deuxième épisode, nous sommes au bistrot du sommelier. Pour tout dire, dans la cave, mais voilà, profondément ancré dans la terre, entouré de bouteilles magnifiques et merveilleuses. Et après avoir reçu autour de cette table ronde Gilles Durand-Daguin pour nous parler de vin d'exception et d'un livre qui leur est consacré, eh ben, nous recevrons maintenant le patron, l'homme des lieux, Philippe Forbrack. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de la Terre à boire.
Et puis, c'est un plaisir.
Merci aussi de
nous
recevoir.
Nous sommes dans la terre, il y a à boire. Donc c'est franchement, c'est le lieu qui convient.
Exactement. On a rarement été aussi bien pour enregistrer ce podcast, même si on est très bien, Morgane, quand on vient au studio module. Je te rassure, c'est Morgane qui fait le son. Autour de moi, comme dans l'épisode avec Gilles Durand-Daguin, Valérie Huvertus, bonjour. On se redit bonjour, hein. C'est parce que les gens n'écoutent pas les épisodes à la suite. Peut-être le font-ils, mais ils n'y sont pas obligés. Bonjour Laurent Delceau.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien, on pourrait aller mieux. On ne pourrait aller mieux, que ce soit clair, que ce soit clair.
Et Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on est avec vous, Philippe Forbrack, pour plein de raisons. Comme le disait Patrice il y a 5 minutes avant qu'on ouvre les micros, on pourrait parler de 150 choses avec Philippe Forbrack. On va bien être obligé de choisir quelques thèmes. On va parler un peu de votre parcours quand même, de ton parcours, puisqu'on a décidé de se tutoyer, et de ce qui... meilleur sommelier du monde quand même, on peut le dire tout de suite, en...
92.
Il y a 30 ans tour.
Voilà,
On est là pour l'anniversaire, en fait.
C'est gentil d'être... Voilà, c'est gentil de...
L'anniversaire
de joli tablé pour ça.
De ce titre. Mmh. Et il y a une actualité autour de ce titre de meilleur sommelier du monde, puisque pour la première fois depuis très longtemps, la France accueille le concours de meilleur sommelier du monde, qui va avoir lieu donc au mois de février 2023.
Du 7 au 12 février.
Avec une représentante française, Pascaline Lepelletier.
Absolument.
Voilà, qui a des chances et qui n'est pas toute seule. Il y a combien de concurrents?
Il y a 66 candidats potentiels, puisqu'il y a 63 pays qui participent et qu'on a invité également, on invite les 3 lauréats continentaux, le meilleur sommelier Asie-Océanie, le meilleur sommelier des Amériques et le meilleur sommelier Europe-Afrique.
Ils ont des wildcards.
Absolument, absolument. Du coup, les pays qui ont gagné ces concours continentaux ont droit à 2 candidats. Ce qui est le cas pour l'Europe de l'Italie en l'occurrence, de l'Argentine et de Singapour qui vient de gagner il y a quelques jours le concours Asie-Océanie.
Alors, avec toi, on va parler donc de, je le disais, le parcours, le concours, et puis peut-être justement entre 92 et 2022, c'est l'occasion peut-être de regarder un petit peu ce qui a pu changer dans le monde du vin et puis peut-être dans ce métier de sommelier. Voilà. Comment il a évolué en 30 ans, sans doute beaucoup. Si on revient sur le palmarès, parce qu'il y a quand même eu 16 éditions, c'est un concours qui se tient tous les 3 ans.
Tous les 3 ans,
oui. Voilà. Dont le premier était en 1969. Je fais une petite stat. 16 éditions, 7 Français ont gagné.
La France 6 fois, mais 7 Français, effectivement.
La France 6 fois, et l'un...
Présenté à l'Angleterre.
Nuance, effectivement, Gérard Basset, qui nous a quittés malheureusement beaucoup trop vite, a gagné en 2010 pour l'Angleterre.
Pour l'Angleterre, 3 Italiens, qui est le deuxième pays le plus représenté, 2 Allemands, 2 Suédois, 1 Japonais, qui est le seul non-européen lauréat de ce concours, et 1 Suisse. Et ce qui nous amène à constater que jusqu'ici, 100% d'hommes ont gagné ce concours. Est-ce que 2022, c'est l'année
23.
Où 2023, pardon, c'est l'année où une femme peut gagner ce concours? Combien sont-ils parmi les 66 hommes et femmes? Est-ce que c'est réparti ou est-ce
on n'a pas encore l'identité complète de tous les candidats, puisque chaque pays a encore quelques semaines pour nous donner la liste. Mais on sait qu'il va y avoir un certain nombre de femmes. Nous, c'est le cas pour la France. C'est pas la première fois que, d'ailleurs qu'une Française représente notre pays, puisque à l'époque de 92, quand j'ai gagné la compétition, nous étions 2 candidats français possibles, et j'étais accompagné de Marisa Larousse, qui avait été meilleure sommelier de France à l'époque, et qui était avec moi pour représenter la France. Donc, pas encore de femmes, mais de plus en plus de femmes sur les podiums. parce qu'on a eu Véronique Rives qui a terminé deuxième. Il y a déjà eu Julie Dupuis également qui a terminé troisième. Enfin, il y a plusieurs fois des candidates qui ont vraiment été performantes. Nina Jensen pour le Danemark a terminé deuxième au Mondial en 2019 et a terminé deuxième au Trophée Europe il y a quelques mois. Donc on peut imaginer qu'elle sera extrêmement bien préparée pour la compétition parisienne de 2023.
Le dernier Français, on le note, à avoir gagné cette compétition, c'est en 2000, Olivier Poussier.
Absolument.
Et le dernier gagnant en date, l'Allemand Marc Almert.
Absolument.
Si tu prononces, allemand.
Ouais, tu le prononces bien.
En 2019. On va vraiment parler de ce concours, de ce qui se prépare, mm-hmm. parce que tu es partie prenante dans l'organisation de l'édition 2023 en
oui,
France.
Oui, absolument. La France a gagné la candidature, donc c'est nous qui sommes les organisateurs. Nous sommes le pays hôte. C'est un peu le parallèle qu'on peut avoir avec des Jeux Olympiques ou une compétition style championnat du monde, Coupe du monde de rugby ou de football. Donc nous sommes le pays hôte, nous avons donc la charge de toute l'organisation, logistique, pratique, communication, etc. La compétition elle-même est organisée par l'Association de la Sommellerie Internationale, le concours, d'ailleurs le concours s'appelle le concours ASI, du meilleur sommelier du monde, Association de la Sommellerie Internationale, reste l'élément organisateur de l'épreuve. Et nous organisons tout autour, effectivement, le réceptif, tout l'événementiel, la communication.
Logistique, quoi.
Absolument, l'organisation nous incombe. C'est un travail assez phénoménal. Hein. Ça fait 3 ans qu'on y bosse dessus. Le pays a été choisi donc en décembre 2019. Et depuis décembre 2019, on a mis en place une équipe. C'est l'Union de l'Assemblée française, dont je suis le président depuis 2016, qui est donc l'association organisatrice. Et on a mis tous les moyens qu'on avait, à la fois humains et financiers, pour pouvoir faire en sorte d'organiser ce concours.
Alors, je le disais en introduction, je trouve ça intéressant de revenir quand même sur ton parcours. En 84, meilleur jeune sommelier de France, qui s'appelait à l'époque le trophée Ruinart. En 88, meilleur sommelier de France. À 92, ce titre de meilleur sommelier du monde. Et puis, il y a quelque chose que j'ai découvert en parcourant ta biographie, c'est que tu as participé à ce concours des meilleurs ouvriers de France, qui est aujourd'hui un label absolument incontournable.
Absolument.
On voit que ce soit des boulangers, des pâtissiers.
Il y a 200 métiers qui organisent effectivement, qui peuvent organiser cette compétition également, qui est un examen. D'ailleurs, c'est pas un concours.
C'est plutôt un examen.
Même si dans l'histoire, dans l'esprit populaire, c'est plutôt un concours, mais c'est un véritable examen d'État, l'équivalent d'un niveau 5 en termes de reconnaissance de diplôme. Donc, certes, les métiers les organismes, et c'est sous le contrôle de l'Éducation nationale, et c'est signé par le ministre de l'Éducation nationale.
Dans ces métiers de bouche, au sens large, on va revenir évidemment sur le vin, qui est la chose qui nous occupe le plus, en quoi c'est important de sanctionner à un moment par un diplôme honorifique, parce que c'est pas le diplôme, c'est un diplôme d'exception, on peut dire, particulier, ou de participer à des concours. C'est pas forcément quelque chose de naturel. Quand on pense au vin, on n'imagine pas forcément une compétition autour du vin. En quoi c'est important, à ton avis, d'avoir ce type de compétition, de grand rendez-vous, où les talents s'affrontent, se confrontent?
Alors, c'est pas exactement un diplôme honorifique. Hein. C'est beaucoup d'honneur de
oui,
recevoir
bien sûr,
ça,
bien
mais
c'est
pas honorifique. Il y a une vraie compétition et c'est factuel. C'est pas voilà, on décide pas que c'est un tel qui est le meilleur parce que il nous plaît, etc. C'est factuel. Il y a des épreuves, il y a une vraie organisation avec des sélections, avec des quarts de finale, demi-finale, finale, etc. Donc il y a une vraie compétition. Ce qui a motivé l'organisation de ces compétitions, c'est vraiment pour faire connaître le métier. C'est-à-dire de mettre en valeur effectivement les talents pour que les gens aient envie de connaître le métier, aient envie de l'exercer. Donc c'est pour susciter des vocations. C'est vraiment l'esprit initial. Et bien sûr, ça permet de mettre en valeur des talents, mais ça permet surtout de faire parler du métier. Et c'est vraiment en ça que c'est intéressant. Et dans la compétition qu'on organise l'année prochaine à Paris, elle a cette vocation. Bien sûr, on rêve tous, nous Français, que Pascaline Le Pelletier décroche la timbale. Et ça serait juste exceptionnel pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais c'est surtout pour faire en sorte que le métier perdure, se développe, soit visible, soit représentatif. Et que les jeunes, notamment, aient envie d'embrasser cet univers. Qui est un univers à la fois fantastique et en même temps très complexe. On imagine des codes, on imagine des relations, etc. Et les formations, tout comme les compétitions permettent effectivement de peut-être aux lauréats, mais pas que, aux participants finalement, de se faire justement du réseau, de pouvoir faire en sorte de rencontrer par définition d'autres personnes. Et aussi, on a des métiers extrêmement prenants qui mangent la vie tout court parce que c'est des métiers de passion. Et finalement, de participer à une compétition comme le meilleur sommet de France, le meilleur ouvrier de France, le meilleur sommet du monde, bien entendu, ça permet vraiment d'aller plus loin et de se forcer quelque part à apprendre, de prendre du temps sur d'autres choses pour continuer à œuvrer et apprendre en permanence. Parce que sinon, un restaurant, un sommelier travaille dans un restaurant, on ouvre le matin, on finit le soir et toute la journée on est occupé. Hein, je veux dire, clairement, la cave, le service, les clients, les fournisseurs, voilà. Et on apprend quand ? On apprend effectivement un petit peu, mais quand on a un challenge personnel, un défi, automatiquement, on fait un focus sur cette préparation. Et là, on continue à progresser réellement.
C'est un peu, enfin, le parallèle est assez vite fait avec le métier de vigneron, parce qu'on a une image très... on sait qu'aujourd'hui, les cuisiniers, top chef, etc., on a une image d'Épinal, et puis c'est une nouvelle star. Mais derrière, c'est des métiers de malade. C'est-à-dire que s'il faut arpenter le chemin, vigneron, c'est un métier de tous les jours. Mm-hmm. Le restauration, c'est un métier de tous les jours. Le sommelier, c'est un métier de tous les jours. Donc, c'est des métiers d'artisans qui sont sous les feux de la rampe, de manière générale en termes de public, mais qui sont des métiers... s'il fallait le faire, je parle pour moi, c'est des métiers excessivement prenants, qui prennent beaucoup de temps, et c'est des métiers durs, fondamentalement. Et oui. Je pense que ça donne aussi une image noble, et puis c'est une notion du raffinement, enfin, que ce soit dans les trois étoiles, ou c'est tendre vers l'excellence, en tout cas c'est un horizon pour tous les gens qui sont besogneux, parce qu'au quotidien je pense que c'est un travail besogneux, et qu'on a besoin, comme dans les vins d'exception, comme d'avoir cet horizon mythique et de rêve qui donne une tension et une direction vers laquelle se diriger.
Absolument, ça permet aux gens de s'élever finalement. Dans les métiers de la restauration, moi qui suis maintenant vieux de la vieille, j'ai commencé ce métier il y a bientôt 45 ans. La presse s'est améliorée, les top chefs, etc. Ouais. C'est un métier tendance quelque part. Même si c'est pas évident d'ailleurs de trouver des candidats, même avec les émissions, etc., c'est quand même pas simple aujourd'hui de recruter. Hein. Mais néanmoins, c'est un métier tendance. C'était pas du tout le cas avant. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là ? Tu peux rien faire d'autre ? J'ai envie de faire ça. Simplement, j'ai envie de faire ça.
Les parents ont accueilli ça ? Alors, je sais qu'il y avait une famille, il y avait les trois chats à Briançon, donc il y avait
absolument
un historique. Mais
famille d'hôteliers restaurateurs.
Est-ce que c'était quand même bienvenu ?
Oui. J'ai pas eu trop besoin de forcer.
D'accord.
Au niveau familial. Par contre, au niveau de mes amis et tout ça, ils étaient un peu plus étonnés. Voilà. Mais bon, familialement parlant, mon père qui était lui expert comptable, qui rêvait que ses enfants prennent la suite, moi j'ai fait le métier qui nous rassemble ce soir. Mon frère était kiné, il a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps, et ma sœur est prof de théâtre. Donc effectivement, il n'y en a aucun qui a suivi réellement son chemin. Mais il ne nous en veut pas, a priori ça va. Et puis c'est vrai que vous vous rappelez tout à l'heure, mes grands-parents étaient restaurateurs. Et c'est vraiment là que j'ai eu, que j'ai eu envie de faire ce métier, c'était à leur contact. Tout gamin, je me souviens quand j'étais assez grand pour voir ce qui se passait au-dessus du fourneau, parce que tout j'étais en dessous. En même temps, j'ai cultivé cette notion de sensation, de qu'est-ce que ça sent, etc., parce que je voyais rien. Quoi. J'étais plus petit que le fourneau, donc je voyais rien de ce qui se passait dessus. Par contre, j'avais des images d'odeurs extraordinaires. Et mon grand-père, qui était un grand chasseur, d'où le nom d'ailleurs de l'établissement, les Trois Chamois. Quand ma grand-mère commençait à préparer le gibier, que ça mijotait, etc., c'était juste des sensations extraordinaires. L'après-midi, on allait ramasser des framboises, des myrtilles, des choses. On faisait le soir des confitures ou des gelées ou des tartes, tout simplement. Ça sentait bon et tout. Ça a bercé toute mon enfance.
Juste pour faire une toute petite parenthèse là-dessus. Donc, en général, vous en avez déjà parlé par ailleurs, mais un restaurateur choisit son sommelier. Vous êtes un sommelier qui a créé son resto, qui a choisi son cuisinier. Est-ce que ça change quelque chose dans les accords ? Est-ce que ça change quelque chose dans la carte ?
Le restaurant s'appelle le bistrot du sommelier.
Non, mais est-ce que ça change quelque chose dans l'approche ?
Ça change.
Est-ce qu'on fait la carte à partir des vins ou pas ?
Oui, c'est d'ailleurs comme ça que l'histoire est née. Quand j'ai créé cette maison il y a bientôt 40 ans, la première carte s'appelait d'ailleurs « Pour accompagner nos vins, le chef vous suggère ». Et c'est un jeune chef que j'ai trouvé dans la corbeille, puisque c'était un snack bar ici qui s'appelle le Kingdom avant que je le transforme en bistrot du sommelier. Et il y avait un jeune chef qui démarrait dans la vie, etc., et avec lequel on a bâti la première carte et les premières années. Et puis quand il est parti, il s'est installé. Et puis après, il a rencontré sa femme, il s'est réinstallé. Aujourd'hui, il a 3 œnologies de Michelin. Il a démarré avec moi ici, dans cette arrière-cour, dans la cave, ou dans une cuisine qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Il s'appelle Laurent Petit. Il a le Clos d'Essence Annecy-le-Vieux. Il est en train de passer la main, d'ailleurs, avec une belle transmission, puisqu'il transmet à son sommelier et son chef de cuisine, effectivement, l'établissement. Et il a commencé avec moi ici. Donc c'était un chef qui s'est mis vraiment au service de la cuisine.
C'est les vins qui donnaient le là pour...
Absolument, et aujourd'hui c'est le même esprit. On a des menus dégustation, accord mets et vins, etc. Ou accord vins et mets, ou boissons et mets. Parce qu'on ne sert pas que du vin. C'est vrai que ce qu'on ne sait pas toujours du métier de sommelier, c'est que ça concerne toutes les boissons. Bien sûr que le vin est l'essentiel du propos, mais les sakés, les bières, les cidres, les jus de fruits, les eaux, les cafés, les thés, les infusions, etc. Tout ça, ça fait partie de la panoplie du sommelier.
Le concours va porter sur autre chose que du vin ?
Absolument. Le concours, c'est le métier de sommelier. Et pas simplement, d'ailleurs, souvent, on réduit un peu le concours à ce qu'il a trouvé, ce qu'il y a dans la bouteille, etc., qui était caché, tout ça. Ça fait partie du métier, on sait tous que ça a ses limites aussi. En tout cas, le métier de sommelier, c'est pas simplement d'être un bon dégustateur, il faut qu'il le soit, mais c'est vraiment un métier de service, c'est un métier de gestionnaire, c'est un métier de communicant, c'est un métier d'ambassadeur, c'est un métier de manager, enfin, etc., etc., de formateur.
Le verbe est essentiel.
Tout est important. Le verbe permet effectivement de communiquer, d'expliquer ce dont on a besoin et vers quoi on a envie de tendre. Donc effectivement, c'est important. La dialectique, les langues étrangères, tout ça est analysé dans les examens, tout ça dans la formation déjà, et puis ensuite est jugé dans les examens et dans les concours.
Est-ce qu'il y a, je l'ai dit, sur les différentes éditions de ce grand concours, on va dire le plus prestigieux de la sommellerie mondiale, une majorité de Français qui ont gagné. Alors on peut se pousser du coude, se dire on est les meilleurs.
Oui, mais ça fait 23, ça va faire 23 ans l'année prochaine qu'on n'aura pas gagné en même temps. Hein.
Oui. Mais au-delà de la compétition, est-ce que le métier de sommelier, est-ce qu'il y a une sommellerie à la française ? Est-ce que c'est une culture qui s'exporte ou est-ce que chacun apporte aussi dans une approche, tu vas nous dire peut-être que approche...
Au rugby, on peut dire qu'il y a le French Flair, qu'il y a le jeu de l'Afrique du Sud.
En tout,
est-ce qu'il y a le French Flair, sans mauvais jeu de mots, hein.
Les Anglais qui n'ont jamais gagné. Mais est-ce que les Anglais ont une approche de la sommellerie qui va être un peu différente quand on va dans un restaurant, c'est des détails tout bêtes, mais dans certains pays, on ne vous sert pas les mêmes verres que nous, on a l'habitude d'avoir en France, ce petit verre. Il y a des endroits où on vous sert un vase. Il y a beaucoup de vin. Les apports des uns et des autres, est-ce que c'est encore un métier qui vit avec les canons posés par une certaine sommellerie française? J'arrive à formuler cette question qui a pris 4 heures. Excusez-moi.
La création de l'Association de la sommellerie internationale, qui date de la première année du concours, ça s'est fait
69,
en même temps, a été fondée par la France à l'époque, la Belgique, le Portugal, l'Italie. Donc des pays de tradition, j'allais dire, à la fois viticole et de service, de sommellerie. L'Italie, c'est des grands métiers, c'est des grands pourvoyeurs de gens du service notamment. La sommellerie en fait partie. Et puis les autres pays que j'ai cités également. Petit à petit, il y a d'autres pays qui sont arrivés. C'était très européen. Aujourd'hui, c'est très international. Sur les 63 pays, il y a quand même une très grande part... pas encore dans le palmarès, on a évoqué tout à l'heure ensemble, mais en tout cas dans les participants, il y a beaucoup de pays asiatiques, il y a la plupart des pays d'Amérique, il y a quelques pays africains qui arrivent, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Moyen-Orient aussi petit à petit arrive, etc. Donc il y a une sorte de symbiose d'influence aujourd'hui avec différentes approches. La référence reste très européenne, très méditerranéenne, on va dire ça comme ça, Espagne, Italie, Portugal, France, dans cette notion justement de service, dans cette notion aussi de servir le vin à table, et pas simplement décalé. La vision anglo-saxonne, on le sait, est plutôt de goûter le vin, et puis on mange, on mange pas, à la limite, on s'en fiche un peu de nous.
Le vin se suffit.
On s'installe, on prend qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange, etc., mais on fait vivre les deux ensemble. Et ça, c'est très différent. Du coup, quand les sommeliers américains abordent le vin, ils l'abordent souvent en tant que tel, alors que nous, on l'aborde dans le sens de l'association entre les mets et les vins. Moi, j'ai fait pas mal de bouquins, notamment le dernier qui s'appelle Accord vin et mai, en partant du vin pour aller vers le mai. C'est l'esprit même du bistrot du sommelier qui nous accueille aujourd'hui. Donc ça, c'est assez différent.
Les uns les autres, je sais pas, Valérie, Laurent, ces concours de sommellerie. Déjà, est-ce que vous avez assisté déjà à des concours de sommellerie? Moi, j'avoue, j'ai jamais participé. On va en dire un mot parce que là, c'est carrément un événement. C'est vraiment le ça va se finir dans un stade, quoi. Hein. Donc,
c'est pas les jeux du stade,
c'est
l'accord
Arena.
C'est l'accord Arena le 12 février, effectivement. Ouais. Et pour la première fois, en effet. Globalement, chaque fois, sauf peut-être une fois au Japon, où vous avez ouvert un peu au public un peu plus large. Sinon, ça se fait plutôt pour les gens du métier, les délégations, etc. Tout le monde vient. Voilà.
Il faut dire là, qu'à tous les étages de la formation de sommellerie, il y a ce type de concours. Hein, les jeunes qui passent des concours de jeunes sommeliers régionaux, ils sont qualifiés pour les nationaux. C'est pas forcément très médiatisé, mais à tous les étages, il y a cette notion de compétition.
Oui, et puis les jeunes qui sortent, les jeunes et les moins jeunes, en tout cas les candidats qui sortent après à l'échelle nationale, voire internationale, sont souvent passés par des concours régionaux ou semi-régionaux ou nationaux avant d'accéder là. C'est un cheminement. Hein. On n'est pas meilleur sommelier du monde par le fruit du hasard. Vous avez rappelé un peu mon palmarès et mes quelques titres précédents. Moi, j'ai essayé de faire ça tous les 4 ans, c'est plus facile pour m'en souvenir. 84, 88, 92, ça fonctionne bien comme ça.
Bon, je le dis, mais juste avant qu'on vienne dans le studio et qu'on allume les micros, Patrice a eu la petite idée de faire déguster à Philippe le vin qu'on avait dégusté avec Gilles Durand-Aguin juste avant. C'était un domaine de Trévalon. Mmh. Il nous a plié ça en quoi, 5 minutes Comment ça s'est passé?
2 minutes.
Bah, plié après. Est-ce que le jeu de la sommellerie s'est trouvé? C'est vrai que c'est l'usine.
Non, je réduis pas le métier de sommelier à ça, mais il y avait quelque chose de.
Non, mais j'ai pas trouvé
éblouissant.
Exactement ce que c'était. J'ai fait une approche.
L'approche est bluffante.
Oui, on parle pas du titre, là. On parle pas de la légitimité du contenu du meilleur sommelier du monde. Donc, oui, non, c'est vrai que c'était assez bluffant. Non, mais moi effectivement, peut-être que je déborde la question, mais qu'est-ce que ça, meilleur sommelier du monde, qu'est-ce que ça implique en termes de travail, en plus, parce qu'ils sont tous sommeliers, hein, ceux qui, voilà, mais qu'est-ce que ça implique en plus en termes de durée, de temps d'heure, d'implication, de devoir en tout cas préparer ce concours.
C'est monstrueux, enfin, c'est infini. Un vrai travail.
C'est absolument, Laurent a raison, c'est infini d'abord parce que c'est un concours, donc c'est pas le MOF par exemple, quelque part peut demander moins de travail, parce que le meilleur ouvrier de France c'est vraiment le quotidien vécu à fond, et l'excellence professionnelle du geste, de l'expression de son métier. Un concours, comme le meilleur sommelier du monde, il faut être le meilleur. Il faut tout savoir, et plus que les autres en plus. Donc il faut faire la différence tout le temps. Sur chacune des épreuves, il faut scorer, il faut se dépasser, etc. etc. C'est l'excellence excellente, entre guillemets. Quoi. Moi j'ai travaillé pendant 10 ans avec cette obsession-là. L'endroit où nous sommes ici, je me suis enfermé combien de fois pour pouvoir être tranquille entre deux services, entre deux tables parfois, pour venir bosser, parce qu'il faut bachoter, hein, parce que, comme on dit, hein, si on veut reconnaître, il faut déjà connaître. Hein. Donc il faut connaître, ça veut dire qu'il faut vraiment connaître. Donc les appellations, les régions, les types, les vignerons, les millésimes, les terroirs, les approches, et ça sur toutes les boissons, vous l'avez compris. Donc c'est les bières par exemple, moi je suis pas très fan de bière à titre personnel, je suis plutôt provençal de culture, et c'est pas trop la bière chez nous, donc je me suis forcé à prendre des choses, j'aime bien les spiritueux mais j'en bois pas souvent, donc je me suis forcé aussi à apprendre. Pour essayer de performer au maximum.
Et quelle est justement, la question est peut-être mal posée, mais entre la connaissance et l'intuition, la spontanéité, 99% et 1%? Parce que, je ne sais plus à quel moment c'était, mais vous avez eu une inspiration, vous en parlez, du Müller Turgot, de Franconi, des concours, mais là, il y avait autant d'intuition que de connaissance, non? Alors, c'est quoi c'est que du savoir? Où il y a une part d'immédiateté, spontanéité à un instant T.
Oui, heureusement, à un moment donné, il faut scorer. Donc, il faut dire tout ce qu'on pense. Mmh. Voilà. Et cette histoire de Müller Turgot de Franconi, ça m'avait vraiment marqué parce que j'étais là en Allemagne quelques temps avant, j'avais pas pu tout goûter. Et puis on m'avait offert un livre. Donc en rentrant en train, etc., j'avais feuilleté ce livre, j'avais lu ce livre, j'avais essayé de l'étudier un peu, voilà, histoire de compléter ce que j'avais goûté. Et lorsque j'ai écrit, c'est une dégustation à l'écrit, hein, lorsque j'ai écrit ce texte sur le vin que je dégustais, j'ai marqué tout ce que je ressentais. Et quand j'ai eu fini ma page d'écriture, je me suis dit, mais ce vin, j'ai jamais bu ça. Mais par contre, je l'ai lu quelque part. Ce que je venais d'écrire, je l'avais lu. Donc ça veut dire que la dégustation qui avait été décrite par l'auteur de ce livre sur le vin allemand était très précise et que ma dégustation du jour était aussi pertinente. Et donc j'ai essayé d'associer les deux et de marquer finalement en conclusion, je pense que c'est ça, parce que j'ai pas marqué, je l'ai lu sur ma fiche.
J'ai bien senti le mur.
Vous n'avez pas reconnu un vin que vous aviez déjà goûté, vous avez reconnu en reconstituant la dégustation par rapport à une dégustation dont vous aviez lu le compte-rendu.
Absolument.
C'est fabuleux.
Et si on veut d'ailleurs s'en sortir, pas à chaque fois parce que la dégustation c'est avant tout les codes de la modestie, on le sait très bien les uns les autres, mais si on veut espérer s'en sortir, il faut surtout pas se focaliser sur ce que c'est tout de suite, il faut le décrire. Bon là on est entre nous, on fait ça différemment, mais dans une compétition, vous décrivez la couleur, vous découvrez, etc. Ça va donner plein d'éléments sur le cépage, sur l'âge du vin, sur, etc. Et vous décrivez. Et vous chassez de l'idée tout de suite de savoir justement la spontanéité.
Ouais, c'est permis d'éliminer en fait.
Que vous avez tracé et écrit tout ça, là vous pouvez vous dire, je fais une synthèse et ça peut me faire penser à ça. Et là, il va falloir prendre la bonne décision si on veut effectivement s'en sortir bien. Mais si on va tout de suite sur un focus en disant... Ça me rappelle ça, ça me rappelle ça, moi ça. On se bloque dans ces idées.
Ce que vous dites, c'est que l'intuition, c'est le fruit d'analyse, en fait.
Absolument.
L'intuition, au final, est le résultat d'analyse. Ouais.
Et sinon, dans une compétition, on s'en sort pas. C'est pas possible.
Parlons un peu du vin.
On boit un vin, d'ailleurs.
Ah. c'est le vin que j'ai apporté, c'est ça?
C'est ça. Ouais.
Enfin, j'ai pas eu le chercher très longtemps, il y en a pas mal autour de nous. Hein. Ouais. Et celui que j'ai apporté pour vous ce soir, pour vous le partager, c'est un Châteauneuf-du-Pape. Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une appellation que j'adore. C'est sûrement l'appellation qui avec le muscat de Baume de Venise, qui est le premier vin que j'ai goûté réellement dans ma vie. J'étais adolescent, mon père m'avait fait goûter ce muscat qui était juste incroyable. J'ai encore parce que la sensation de l'avoir encore au palais, surtout au nez, parce que c'est un arôme de fruits frais, de raisins, d'abricots aussi, de pêches, etc. Et surtout de roses, de litchi. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui m'avait fasciné. Mais en termes de vin rouge, Châteauneuf-du-Pape, c'était le vin le vin de la famille, le vin du dimanche, le vin, voilà, déjà à l'époque, chez mes grands-parents et chez mes parents. Donc j'ai toujours une affection pour ce vignoble-là. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai eu l'opportunité de m'associer avec la famille du Seigneur pour produire du vin d'abord sur l'Irac et l'Audin, donc sur la rive droite du Rhône. Et depuis une dizaine d'années, depuis le millésime 2012, de récupérer quelques vignes à Châteauneuf-du-Pape. Et c'est le cas de ce magnum. On s'est dit que quelque part, on avait beaucoup d'auditeurs. Donc, il fallait prendre un Géraud, etc. Ce magnum de Catarina dans le millésime 2015, qui est un assemblage de grenache essentiellement, puisque Châteauneuf, c'est quand même le cépage roi, c'est le grenache. Mais également sur cette cuvée, un petit peu de Pinot de Bourvade, un peu de Syrah, qui sont les trois cépages principaux, même si l'appellation Châteauneuf a cette originalité-là.
Porte ouverte.
Oui, c'est paradoxe presque de pouvoir faire 13 cépages de base différents, parce qu'il y en a certains qui sont multipliés par le terré, il existe en rouge, en blanc, en gris, pareil pour le grenache, etc., etc. Donc finalement, il y en a presque pas loin d'une vingtaine, si on les prend individuellement, avec les dérivés, mais 13 de base, et finalement de faire aussi du monocépage. Ils se sont autorisés plein de choses et pas interdit grand-chose, c'est finalement une bonne idée. Et on a des Châteauneuf purs grenache, des gens comme Rayas, par exemple, sont un bon exemple. Mais il y a aussi des vins qui sont issus quasiment de Mourvèdre. Prenez hommage à Jacques Perrin, par exemple, c'est quasiment du Mourvèdre sur Beaucastel. Donc on a des extrêmes comme ça et des purs Syrah aussi sur Châteauneuf. Donc c'est surprenant. Donc ça, c'est notre cuvée Catarina.
Du domaine du Seigneur.
Domaine du Seigneur, absolument. Un petit domaine de quelques hectares sur Châteauneuf. On travaille d'une approche qui est plutôt bio, même biodynamique, depuis 15 ans qu'on s'occupe de différentes vignes dans le coin, on les a toujours fait évoluer dans ce sens-là, avec un vin qui j'espère vous plaît. Hein. C'est 2015 qui est un joli millésime.
Ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire, Valérie?
Alors moi je dis que c'est un peu de bonheur, là. C'est top.
ce côté un peu kirché, qui est très classique des grenaches. Et de la fraîcheur. Mais je pense que la biodynamie aide à aller justement chercher de la fraîcheur. Parce que ce sont des vins qui sont souvent autour de 15 degrés. Et finalement, on ne sent pas ce côté alcool très fort et spiritueux quasiment qu'on a parfois. Puisqu'il y a effectivement, Valérie disait, tu as raison, beaucoup de fruits.
Oui, puis en 2015, on était quand même floral aussi. Une année chaude quand même globalement.
Oui, quelles sont les années qui ne sont pas chaudes d'ailleurs? Je ne dis pas si ces dernières années, il n'y a pas beaucoup, mais effectivement. Mais
elle est chaude aussi ailleurs.
Absolument, absolument. C'est un millésime plutôt chaleureux.
Si elle est chaude ailleurs, il y a des chances qu'elle soit...
À Châteauneuf, encore plus, exactement, tu as raison.
Quelle est ta contribution aujourd'hui sur ce vin-là dans, parmi tes multiples activités? Tu as le temps de... descendre, alors, déguster les nouveaux jus, dans faire des choix avec le vinificateur.
Oui, oui, c'est vraiment ma mission, j'allais dire, sur place, c'est dans la mesure du possible d'aller goûter avec eux dès que les fermentations sont terminées, participer aux assemblages, l'élevage des vins et à définir la gamme. Ça a été aussi le travail au départ de se dire, voilà, parce qu'on a une gamme qui s'appelle Catarina, on a une gamme qui s'appelle les Songes de Catherine, enfin une cuvée qui s'appelle les Songes de Catherine, une autre cuvée qui s'appelle Johanna. Que des noms féminins, parce que finalement, on était inspiré plutôt par les femmes qui ont marqué l'histoire de la papauté avignonnaise, puisque Jeanne, Johanna, c'est Jeanne de Provence, hein, qui a vendu les terres pour que les papes construisent le château neuf du pape, mais aussi le palais des papes à Avignon. Catherine de Sienne est la dernière femme qui a ramené... Le dernier pape qui est venu chercher le dernier pape d'Avignon pour le ramener au Vatican. Donc c'est les deux femmes qui ont marqué l'histoire un peu au début et à la fin de ce 14e siècle qui a vu la papauté avignonnaise.
Pour revenir au concours.
Au concours.
Moi, ce qui m'interrogeait un petit peu, c'est que pour le concours, il faut être quatre en fait. C'est-à-dire qu'il y a le sommelier, il y a l'assistant sommelier, il y a le président de la fédération et je crois qu'il y a un photographe ou un journaliste. Mm-hmm. Alors pourquoi ce... Pourquoi cette équipe et surtout quel est le rôle du suppléant?
Alors le rôle du suppléant, si le candidat officiel malheureusement était défaillant, voilà, il n'est pas arrivé. Pardon, il faudrait que le suppléant prenne le relais. Et
c'est
au pied levé.
C'est juste un remplaçant,
absolument.
D'accord. Il n'y a pas d'apport pendant le.
Alors il peut, voilà, les gens qui sont là sont utiles, comme on dit dans nos métiers. Hein. Là, il y a toujours besoin de faire quelque chose, mais réellement, il y a le candidat, le président, il y a un média qui accompagne effectivement et un suppléant. Si le candidat va bien, le suppléant n'est pas obligé de venir. C'est pas obligé non plus de à chaque fois que le candidat soit accompagné de son suppléant sur place. En revanche, il y a un esprit de volontaire qui accompagne. Et effectivement, on a besoin de petites mains. C'est beaucoup de monde à gérer. Il y a beaucoup d'événements. Il y a des dégustations. Tous les jours, il y a les épreuves. Mais il y a des masterclass, il y a des rencontres, il y a des repas. Il y a un endroit qui est très apprécié de l'ensemble des participants, qui est le bar des sommeliers. Tous les soirs, à partir de 17h, les gens se retrouvent pour goûter les vins.
Le soir, c'est
17h. Voilà, à partir de 17h, mais nous sommes en hiver, ça c'est en février, donc il y aura déjà bien nuit. La nuit sera tombée quasiment.
Non, mais ça me va.
Voilà. Après, les gens vont manger, etc. Ils peuvent se retrouver, s'ils le souhaitent, ensuite, un peu plus tard, après le dîner, pour continuer à partager des moments, enfin, etc. Les candidats, en général, quand ils ont des épreuves le lendemain, vont se coucher assez tôt. Hein, et c'est bien normal. Par contre, l'ensemble des accompagnants se retrouvent. Et c'est vrai que c'est un métier de convivialité, d'échange, de discussion, etc. Et ça rassemble quand même beaucoup de gens. Donc il y a vraiment ces moments d'échange qui sont super importants. Quoi. C'est ça l'esprit aussi.
Au risque de... Allez, je ne vais pas être dans le sens du poil, mais c'est une compétition. Donc est-ce qu'il y a des coups bas, est-ce qu'il y a des pas du tout, vraiment en toute sincérité on est, alors c'est peut-être pas facile, mais est-ce qu'il y a des trucs ou des coups bas potentiels pendant la compétition? Vraiment
alors,
pas
j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des coups bas.
Coups bas, c'est peut-être pas le bon terme,
et globalement c'est quand même très bienveillant même entre candidats, le meilleur gagne et puis voilà, c'est bien. Le meilleur gagne. Il y a à ma connaissance jamais eu de conflits ou de sous-entendus, etc. C'est bien. Et quand j'ai gagné, moi, en 92, je me souviens de cet esprit-là qui est toujours le même que j'ai retrouvé à Anvers en 2019 quand Marc Almert a gagné. et qu'on a même, qu'on retrouve même dans les heureusement dans les compétitions nationales. Il y a quelques jours, Xavier Tuzac, qui est le chef sommelier de l'hôtel de Crillon, a gagné le meilleur sommelier de France. Il y a une vraie reconnaissance de celui qui gagne ce jour-là. Ben, respect, voilà, c'est tout. Et c'est surtout un moment vraiment d'échange. C'est pas quelque chose de, juste on dit ça, c'est une belle formule, on échange, etc. Il y a une vraie complicité professionnelle.
Il y a vraiment du partage.
Et au-delà de ça, absolument.
Est-ce qu'il y a dans la compétition, est-ce qu'il y a une épreuve difficile ou qui fait peur aux sommeliers? C'est quoi les épreuves? Est-ce qu'il y en a une qui fait plus peur?
Alors c'est vrai qu'il y a on n'imagine pas toutes les épreuves et toute la complexité des épreuves. Il y a un écrit qui dure 2 heures, où il y a une centaine de questions. La plupart des questions sous forme de QCM, parce que sinon c'est ingérable à la fois pour répondre et pour corriger, mais quelques questions ouvertes qui sont assez pertinentes. Et des questions sur tout l'univers des boissons, mais dans toutes ses dimensions, historiques, géologiques, climatologiques, administratives. Vraiment, c'est très 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 large, quoi. Mais quand on parle du produit, on parle aussi, par exemple, de la bouteille, du bouchon, du bouchage, de l'étiquetage, donc le côté effectivement légal, c'est quasiment infini. Et c'est ça qui est fascinant d'ailleurs, parce que c'est une culture très très large, et cette épreuve écrite est extrêmement discriminatoire, parce qu'elle permet pratiquement d'éliminer ceux qui n'ont pas qui permet de passer en demi. On commence avec l'écart, et demi et finale. Il y a trois étapes finalement. Donc ça, c'est une épreuve redoutée, clairement. Il faut scorer. Et là, on peut vraiment faire la différence déjà pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il y a bien sûr la dégustation, écrite, orale, en public, en loge, etc. Quoi qu'il arrive, une dégustation qui se fait... En général, à l'aveugle, c'est pas une obligation. On peut avoir aussi une dégustation où on nous demande de décrire un produit et voir si on est capable, justement, avec la lecture de l'étiquette, d'aller beaucoup plus loin que si on avait à le décrire sans savoir ce que c'est. Donc, il y a les deux aspects qui sont analysés. Il y a la dimension langue étrangère également. L'épreuve doit se faire dans une langue étrangère à la sienne. Donc, les Français le font en anglais ou en espagnol. Il y a 3 langues officielles, français, anglais, espagnol. Et on doit choisir dans ces 3 langues, effectivement.
C'est pour ça que les Anglais ne sont pas gagnés, jamais.
Mais pour les Anglais, il faut qu'ils maîtrisent au moins le français.
C'est pas facile pour eux, je pense.
C'est pas facile de maîtriser.
C'est pas facile pour eux.
Ou l'espagnol. Hein. Mm-hmm. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, quelques Anglais l'ont fait, mais pas nécessairement. Et les Suédois qui parlent suédois, par définition, le font en anglais, mais qui est une langue assez courante pour eux également, très familière pour eux. Pascaline Lepelletier, qui travaille à New York depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, et un anglais absolument parfait, courant, c'est un atout pour les gens qui effectivement font des carrières et se préparent finalement avec le temps dans d'autres pays.
Ok, donc l'écrit.
Donc l'écrit, super important, la dégustation, on peut l'imaginer. Mais après, il y a des épreuves de comportement, des épreuves de service. On demande de mettre en œuvre une table, de servir une bouteille. On se dit que finalement, servir une bouteille, c'est à la portée de tous. Sauf qu'il y a un bouchage particulier, sauf qu'il y a une présentation qui doit se faire aussi dans les règles de l'art, que chaque bouteille peut être particulière. Il peut y avoir aussi... De temps en temps, alors bien sûr, dans une compétition, il y a toujours des pièges, clairement. Hein, je me souviens d'une année où il y avait effectivement une liste de vins, il y avait les étiquettes de différents vins que les clients avaient apportés pour que le sommelier fasse effectivement un repas, accord mais et vins. Alors déjà, il fallait rassembler par famille de vins, parce que sinon on faisait 12 places, c'était pas possible. Donc il fallait bien sûr penser à ça, mais surtout il y avait des vins qui n'existaient pas. Parce qu'on peut acheter aussi des fausses bouteilles. Hein. On a vu avec quelques faussaires célèbres, le fameux Rudy notamment, qui il y avait ces bouteilles-là notamment. Bonne Mare de chez Rousseau 45, ça n'a jamais existé. Enfin, je veux dire, clairement, ça a commencé des années 60. Bon, sauf que si le client arrive avec une bouteille comme ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique qui est important. Un client qui arrive avec une fausse bouteille, quand je lui dis « Bonne bouteille, monsieur, c'est faux, qu'est-ce que vous apportez ça, restez chez vous ?» Ou est-ce qu'on lui dit... Voilà, comment on approche le problème. Moi, je me souviens, quand j'ai gagné le concours, les gens me disent « Ah ben, ce soir, on est invité chez des amis, on doit boire de l'Unibache blanc 86, est-ce que vous pouvez nous en parler ?» Ben, il dit « Oui, très bien, je vais vous en parler. » Enfin, très bien, je en parle, quoi. Le cépage blanc, la tradition médocaine du blanc, etc. Le sauvignon, le sémillon, l'approche. Déjà parler un peu de château lisbage aussi, tout court. Le replacer dans son contexte. Et après, j'ai dit, par contre, vérifiez bien l'étiquette, parce que je pense que ça sera pas du 86, mais plutôt du 89, parce que. On était en 92, hein. Parce que ça commençait en 89, l'histoire de lisbage. Il n'y en a pas eu avant. Ou des millésimes de château d'Yquem qu'elle n'a pas eu, et à la carte on dit regardez cette carte et vérifiez-moi s'il n'y a pas, pas d'erreur, et 73 par exemple, ou 74 exemple par exemple où il n'y a pas eu d'Yquem, s'il y en a à la carte il y a un problème, quoi. Soit on fait des erreurs sur le millésime, soit c'est des fausses bouteilles.
Alors ça m'évoque une question, qui prépare les épreuves?
Alors, il y a une comité technique qui est en charge des épreuves, et qui est composée d'un certain nombre de personnalités du monde entier. Hein. Actuellement, présidée par Olivier Poussier et Shinya Tazaki, deux anciens meilleurs sommeliers du monde, qui sont les co-présidents du concours. Et ce sont eux qui organisent l'épreuve avec un comité technique d'une douzaine de personnes autour d'eux, qui ont chacun une spécialité, une approche particulière, une compétence particulière, ce qui permet au secret pour eux d'être complètement indépendants et de préparer toutes les épreuves.
Et si je suis bien, les candidats ne savent pas précisément la nature de l'épreuve qu'ils vont avoir à effectuer ?
Absolument, donc, c'est une découverte à chaque fois.
Des fois à l'aveugle, mais pas toujours.
Absolument, ils découvrent l'atelier lorsqu'ils ont une idée générale pour se préparer, une expérience. Mais après, ils rentrent effectivement dans l'atelier, qui porte nom quand même, hein. Mais ils ne savent pas exactement ce qui les attend. Il n'y a pas un cahier des charges à l'avance en leur disant vous aurez tant. Ils découvrent les choses au fur et à mesure de la compétition.
Et justement, la préparation des candidats, Pascaline est à New York, il n'y a pas une équipe un petit peu. Enfin, il n'y a pas.
Bien localisée, c'est ça ?
Comment ça fonctionne pour... Parce qu'elle ne travaille pas seule dans sa préparation, j'imagine une espèce de comité de soutien, de pilotage.
Exactement. Alors, c'est assez récent, finalement, pour nous en France. Hein. Plutôt les Asiatiques qui ont mis en place ça, les premiers, quand. J'ai fait la compétition donc en 92, j'ai préparé vraiment moi avec une petite équipe.
En solo,
En solo complètement, puisque j'avais quelques amis qui m'avaient réuni, mais c'était une façon un peu informelle. Mais de quelques amis qui m'avaient bien, bien entouré à l'époque. Mais ce n'était pas organisé par l'association du pays, etc. Je me suis débrouillé moi pour faire ça. Aujourd'hui, nous on a créé ce qu'on appelle la Team France, qui est dirigée par David Biro, qui nous a représenté pendant quasiment une dizaine d'années dans les compétitions internationales. Même s'il n'a jamais gagné, il a terminé souvent deuxième, troisième. Donc il sait de quand
le polydor de la sommellerie.
Et quelqu'un d'assez extraordinaire, franchement. C'est le chef sommelier et directeur du restaurant de Thierry Marx au Mandarin Oriental à Paris. Le restaurant s'appelle Le Sur Mesure. Donc c'est lui qui a la charge de la préparation, notamment de Pascaline et de Benjamin Roffet, qui est son suppléant donc. Et même si elle est un peu loin, elle vient régulièrement en France. Elle était en France quelques jours.
On l'a vu à la télé.
Promotion de son livre.
Son livre notamment, mais aussi pour le concours de meilleur sommelier de France.
Pour le concours, voilà, exactement.
Elle a fait un tour dans les vignobles. On a tout géré avec elle pour faire en sorte que ça optimise son déplacement, comme on dit. Elle est allée dans le Bordelais, elle est allée en Bourgogne, elle est venue à Paris, elle est allée en Charente. Et là, on prépare déjà son nouveau déplacement, puisqu'elle va revenir en décembre et en janvier. Donc on finance tout ça et on lui met à disposition le maximum de compétences. Et également à New York, où elle suit bien sûr aussi une formation, avec des gens qui sont sur place et qu'on gère nous à distance. Mais ça peut être un prof de théâtre de Broadway, comme un répétiteur pour qu'elle puisse positionner sa voix, parce qu'elle a beaucoup de tempérament. Pascaline dit « Ok, Zen, il faut quand même que tout le monde puisse suivre ce que tu racontes, surtout en anglais ». Donc il faut pas imaginer que le jury, il faut te mettre, il faut pas. Donc plein d'éléments pour optimiser ses chances finalement.
Qui compose le jury?
Alors un certain nombre d'anciens meilleurs sommeliers du monde, mais aussi des personnalités, des Master of Wine, ça peut être un grand chef, ça peut être un œnologue célèbre. Il peut y avoir. On essaye d'avoir des compétences dans les différents sujets finalement qui rassemblent.
Ils sont nombreux.
Des preuves. Alors le comité technique, c'est une quinzaine de personnes. C'est eux essentiellement.
Ah oui,
sont eux essentiellement qui font le
participent à la construction des épreuves, absolument. Et c'est eux qui vont représenter le jury.
Et après, on peut faire venir des membres complémentaires pour le jury, Mais globalement, on... voilà, c'est son... la base est quand même le comité technique.
Je trouve ça très intéressant de dire, au-delà du concours lui-même, ce rendez-vous du 7 au 12 février 2023, ça va être l'occasion de masterclass, ça va être un grand événement autour du vin, de l'amour du vin, de la culture du vin en France. Donc c'est un formidable coup de projecteur, pas seulement sur le métier de sommelier, sur la culture œnophile, on peut dire, de la France et au niveau mondial. C'est un grand, voilà, l'occasion de parler de vin et d'aller vivre un événement autour du vin. Le concours
Absolument.
N'est qu'un prétexte.
Quasiment. Oui, le concours est
la finalité quand même. C'est comme le festival de Cannes. Ouais. Il y a des trucs autour, il y a machin, ouais. Mais quand même le festival de Cannes.
Il y a la Palme d'Or quand même qui est décernée à la fin. Donc c'est un joli prétexte, mais c'est un prétexte effectivement, et ça va permettre à tous les candidats, à tous les gens qui sont dans l'entourage des candidats aussi, parce que c'est quand même quelques centaines de personnes pendant quasiment une semaine à Paris, de pouvoir vivre des expériences incroyables à travers des masterclass, des rencontres, des repas, des dégustations, enfin, etc.
Donc on va pouvoir s'inscrire, aller participer. Je précise tout de suite, toutes les épreuves jusqu'à la finale se déroulent à l'hôtel Pullman Montparnasse. Et ensuite la finale, on l'a dit, alors c'est l'Accor Arena ou c'est la Défense Arena?
C'est Paris la Défense Arena.
Paris. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la U Arena.
Voilà, c'est l'U Arena.
Du Racing 92.
L'Accor, c'est à Bercy.
Ouais, c'est voilà. Ça.
Et moi, j'habite en banlieue, donc voilà. Je ne peux pas.
C'est Paris la Défense Arena, c'est le stade, effectivement.
Mais c'est énorme.
De Jackie Lorenzetti avec son Racing 92.
Absolument.
Absolument. Donc seule la finale est ouverte au public. Hein. Tout le reste est réservé aux délégations. Et surtout aux candidats et aux membres du jury. Les épreuves se passent pour l'essentiel à huis clos pour que justement les candidats puissent travailler et performer dans les meilleures conditions. Et ensuite, il y a effectivement la finale qui, pour une fois, va être ouverte au grand public. Il y aura une billetterie qui est en train de se mettre en place là ces jours-ci, directement auprès de la Défense Arena. Donc on pourra réserver effectivement. Voilà.
Alors, ça va être les grands écrans.
Oui, absolument.
Les speakers.
Oui.
Combien de concurrents en finale de candidats?
Alors, 66 au départ. En finale, 3.
D'accord.
Le podium. Et là, ils vont avoir à performer quasiment 3 quarts d'heure chacun. Donc, c'est quasiment 3 heures de finale, hein, avec une chose et l'autre. Et des épreuves en commun et d'autres épreuves individuelles. Donc, c'est 3 heures de show.
Nadal Federer en 5-7.
4-7.
Vous avez déjà assisté, j'ai posé la question tout à l'heure, mais on passait à autre chose. Vous avez déjà assisté à des concours comme ça?
Moi, j'ai justement regardé récemment des épreuves, parce que justement, on se pose plein de questions sur le concours, comment ça se passe. On a tous entendu parler de ça, mais on ne sait pas exactement. Donc j'ai regardé effectivement sur YouTube des épreuves.
Ça se regarde comme un match de...
Ouais, alors, chacun passe de foot, mais... à son tour. C'est pas comme un match. Un match, tu as vraiment les deux parties qui jouent simultanément. Là, c'est l'un après l'autre. Donc, c'est évidemment très différent. Mais moi, j'ai l'image de cette finale là avec Xavier Tuiza qui reconnaît les étiquettes qui sont partiellement effacées.
Oui. J'avais fait quand même un petit indice, mais des fois, c'est quand même pas évident.
Oui, il y en avait qui étaient quand même assez corsés, j'ai trouvé. Mais bon, quand on a l'habitude de servir des grands vins, parce que c'était tout, évidemment, des domaines quand même...
assez connus, oui, absolument.
Ouais, prestigieux. Bon, ben voilà, c'est amusant.
Mais 5 secondes, max.
C'était très court.
Il y avait Ro et Ti, et il a mis Côte Rôtie, alors que c'était Romane et Conti.
C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, je trouve ça très impressionnant. J'avais regardé
justement Pascaline. C'est impressionnant.
Le Pelletier. Mais il a fait,
oui, Pascaline, c'était impressionnant.
Enfin, c'était impressionnant, vraiment.
Toutes les finales sont assez impressionnantes. Florent Martin qui a gagné en 2020. 18 Pascaline, 2020. Ouais. Enfin, c'était en 2021, mais c'était le trophée
du concours de meilleur sommelier de France.
Ouais. Xavier Tuiza, il y a quelques jours, qui travaille absolument Peninsula, et puis Xavier au crayon, comme on le disait tout à l'heure, a fait une finale juste incroyable.
Vous attendez le fait que la France accueille cet événement, vous attendez des retombées médiatiques, j'imagine, grandes. En plus, il y a une candidate française. Est-ce que voilà, les radios, les télés. Bon, là, c'est un podcast. Hein,
oui.
N'attendez pas beaucoup de retombées de la terre à boire.
Ça en fait partie.
Mais voilà, est-ce que déjà, les grands médias, vous sentez qu'ils sont prêts à couvrir ça comme une compétition sportive? Évidemment, ce n'est pas un mondial de foot, mais...
Alors, pas en direct, mais par contre, la préparation, l'aboutissement aussi, quelque chose qui intéresse les grands médias. France 2 fait un reportage actuellement sur Pascaline. TF1, toute une équipe qui est là aujourd'hui, aussi au Bistrot du Sommelier, pour
ils sont pas dans la cave, ils sont dans la salle,
etc. M6, la BBC, la télévision japonaise, on sont déjà crédités pour assister à la finale. Enfin, il y a vraiment une grosse demande. Pour pouvoir couvrir effectivement ce bel événement.
Moi, je pense qu'aussi, on a une candidate médiatique, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Vous êtes devenu médiatique après.
Absolument.
Par rapport à ça. Après, est-ce que la loi E20 pose aucun problème sur la diffusion de... C'est une question bête, hein, mais...
Absolument, on ne pourra jamais avoir la loi E20. C'est un petit truc dont on en parle depuis 91. Hein. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir une audience aussi importante que s'il n'y avait pas cette loi. Notamment parce qu'on ne pourra jamais être en direct, etc.
Ouais, c'est ça.
Dans les médias traditionnels, par contre, sur YouTube, sur les réseaux, etc., on le voit, le nombre de vues, par exemple, la finale de Florent Martin, on s'amuse à regarder là ces jours-ci avec la finale, justement, de Evetusa, mais la finale de Florent Martin, je crois qu'on est à 890 000 vues. C'est déjà... Oui, parce que c'est beaucoup pour une finale française.
C'est des visionnages qui sont longs, quand même. Enfin,
absolument.
Il faut être motivé.
Donc, on sent qu'il y a un vrai intérêt. On vise le million, nous, tant qu'à faire. Hein.
Ouais. Ah bon,
on peut imaginer, enfin, on espère. En plus, si Pascaline est en finale et si Pascaline gagnait, ça serait juste fantastique. Je pense que ça exploserait les compteurs.
Quelle pression sur ses épaules.
Marie Pierce.
Ouais, mais c'est une tenniswoman d'ailleurs, Pascaline. On va peut-être conclure là-dessus. Je trouve ça intéressant de porter ce regard sur le chemin parcouru. On s'attend à cet événement. On se dit forcément, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, il y a YouTube. Il y a 30 ans, il n'y avait pas ce genre de moyen de s'intéresser. Nous, on a le sentiment que le vin a pris un statut culturellement. Il a toujours été présent. Donc, on est français, on a cette culture du vin depuis très longtemps. Mais quand même, depuis les dernières décennies, c'est monté en puissance. Il y a des publications, il y a des livres. On va chez des libraires, on a parlé du livre de Gilles Durand-Aguin. Il y a énormément de livres qui sortent sur le vin. Quel regard vous portez sur ces 30 dernières années? Est-ce que vous constatez, comme nous, que... Voilà, le vin est entré dans une nouvelle dimension et que ce concours va, entre guillemets, consacrer, ça pourrait être un point, on va pouvoir constater à quel point le vin est dans les esprits et suscite beaucoup d'intérêt.
Ça a bien évolué en 30 ans. Moi, je le vois par le prisme de mon restaurant, par exemple. Les gens vont s'asseoir, demander une bouteille de vin. C'est pas qu'ils ne se posaient pas la question. Dans une maison comme ici, ils posaient quand même la question. Mais globalement... Ils buvaient du vin, quoi. Aujourd'hui, les gens boivent moins, globalement, hein, c'est vrai. Par contre, ils veulent savoir ce qu'ils boivent. Ils veulent être rassurés ou assurés sur l'origine, sur la définition du produit, ils veulent se souvenir de ce qu'ils boivent. Et c'est d'ailleurs ce que j'explique souvent, nous, dans notre métier, on ne boit pas pour oublier, on goûte pour se souvenir. Et c'est le message qu'on fait passer, d'ailleurs. Et les clients, c'est la même chose. Ils veulent, à la fin de la soirée, pas se dire oh, « qu'est-ce qu'on a bu ? On a bu, c'était bon, on a bien bu. » Voilà, qu'est-ce qu'on a bu, quoi. Et donc, on leur explique. Aujourd'hui, c'est facile de faire des photos, de se souvenir aussi visuellement parlant. Oui, en plus, il y a des applications qui permettent de mémoriser tout ça, de classer et autres. Et donc ça a vraiment changé, quoi. La curiosité aussi... On buvait, nous en France, quasiment que du vin français. Ça reste très français, mais on est ouvert quand même de plus en plus à des vins venus un peu du monde entier, beaucoup plus facilement qu'avant. Servir du saké, de la bière, du thé dans un menu dégustation, il y a 30 ans, on ne pouvait pas l'imaginer. Quand tu préparais le concours, je n'aurais pas osé proposer ça. Aujourd'hui, ce sont des belles alternatives, effectivement, possibles sur les accords, sur des préparations, etc. Donc, il y a... On a ouvert vraiment les champs des possibles. Ce qui reste, c'est l'envie de partager ça. C'est l'explication que l'on donne effectivement à un cheminement vers la notion de plaisir, parce que ce qui est important, c'est de faire plaisir aux gens, c'est de faire en sorte qu'ils gardent une émotion forte aussi de ce qu'ils ont vécu, et pas simplement le prix d'une bouteille. Et pareil, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens, où les gens, pour se faire plaisir, ils avaient l'impression qu'il fallait qu'ils dépensent. Aujourd'hui, il y a des vins à tous les prix, y compris des vins pas chers qui sont super intéressants et dont on est aussi, nous, les dépositaires, sommeliers, de faire découvrir des choses qui sont justement pas encore connues, pas encore trop chères, qui restent accessibles. Et les gens vont se souvenir et vont nous remercier d'autant plus.
Merci infiniment, Philippe Forbrac. Ouais. On a goûté qu'un vin.
Allez, on a oublié le vin en deux mots.
On a oublié le deuxième vin. Alors dites-nous ce que vous pensez de ce vin qui est dans votre verre. Ça teinte.
Déjà, il est bon.
Ça trinque. Déjà, il est bon.
Il a déjà vécu. Hein. On va que, bon, même si le chemin de la cave nous amène à...
Restez près du micro.
À pas nécessairement voir, on sent déjà à la couleur et à l'odeur, effectivement, qu'on a un vin qui a déjà un certain âge. Après, la clarté de la couleur peut évoquer du Pinot ou certains Grenache ou certains... Voilà, on a une évolution de couleur qui est assez pâle, pas très extraite. Ça, c'est plutôt équivalent. Au niveau aromatique, on n'est pas nécessairement dans le Pinot. Je ne pense pas que ce soit du Pinot, hein, parce qu'il n'y a pas le côté fruité du Pinot. On est chaleureux. Il y a un côté un peu sud, de nouveau. De nouveau, parce qu'on a évoqué pas mal le sud, tout à l'heure, le Châteauneuf et autres. Le côté sous-bois, le côté humus, le côté déjà un petit peu évolué, tertiaire, hein, se retrouve dans pas mal de vins différents. On a même des choses en Corse, par exemple, qui ont des évolutions comme ça, hein, sur certains... Chacarello, etc. Donc, ça peut être plein de choses différentes. Plutôt sud, plutôt France. Là aussi, une évolution qui a dépassé la dizaine, peut-être même un peu plus, peut-être même deux fois la dizaine. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté tertiaire qui est là. Et après...
Le vin, il n'est pas passé. Enfin, il est encore
vivant. Non, il est encore, vivant, ouais, il a encore une belle... Il y a encore une belle absolument, énergie. Une très jolie énergie.
On n'est pas très loin de Châteauneuf-du-Pape.
On n'est pas sur du Grenache ?
On n'est pas très loin de Châteauneuf-du-Pape. Ah,
bon. Parce que pour moi, ça me faisait penser à des Grenaches du sud du Rhône, élégamment fait. Ça peut être du côté de Vaqueras, ça peut être du côté de...
On est sur une appellation un peu moins connue qui se trouve... Bon, c'est un clin d'œil à plein d'égards. En fait, on a enregistré
en tout cas, c'est très bon.
Une émission sur Rasto. Il se trouve que c'est un Rasto. Ah. On est chez Lain Durand, donc un vigneron que j'aime bien, que j'ai découvert quand je faisais ma formation à Suze-la-Hausse. Mm-hmm. Bon, c'est un fournisseur et ami qui s'appelle René Duclos qui m'a gentiment offert la bouteille récemment, justement, pour cette émission, pour aller sur un vin un petit peu ancien. On a l'habitude de boire des vins assez jeunes autour de la terre à boire. Et là, on est donc sur un 97. Et je trouve que... Enfin, moi, je suis bluffé parce que j'avais un petit peu peur.
Non, mais le vin, franchement, le vin a tenu.
Super, hein. Super bien tenu, oui. Ouais,
merci pour cette découverte, en tout cas.
Merci beaucoup Philippe Forbrac, on va vous laisser vaquer à vos occupations, toute l'équipe de TF1 qui est à l'étage.
Et est-ce que l'équipe de TF1 sait qu'on est là ou pas?
N'oubliez pas de leur dire. Voilà, bonne continuation, merci de nous avoir accueillis ici. On espère tout le meilleur pour cet événement mondialement suivi du concours de meilleurs.
On va essayer de prendre des places pour le 12 février. Quand même.
Sommelier du monde.
Je pense que c'est un truc à faire, vraiment.
Oui, c'est pour un truc finale. À faire, je pense.
Je pense qu'on n'aura pas l'occasion de revivre ça en France avant au moins une trentaine d'années, hein, puisque Il y a 63 pays, tout le monde rêve de le
c'est,
faire.
C'est comme les comètes, elles passent qu'une fois. Donc,
si on saisir cette belle occasion.
Et soyons chauvins, hein, on va soutenir Pascaline voilà, dans ce voilà, concours.
Que le meilleur gagne, comme on dit. Mais, voilà, que la semellerie soit
que la meilleure sorte. Gagne.
Que si c'est Pascaline, c'est vrai que c'est pas plus mal.
Que le vin soit à l'honneur. Merci beaucoup,
Philippe Formac,
de cet honneur que tu nous fais. Au revoir, Valérie. Au revoir, Laurent.
Au revoir.
Au revoir,
au revoir Patrice. Au revoir. Et merci à tous pour cette belle soirée.
Merci, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
And I'm so